pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il porte des petites lunettes rondes, des cheveux longs, une barbe fournie. Il fait aussi pousser des olives et élève des poules en agriculture biologique dans la vallée de la Roya, au cœur des Alpes-Maritimes, à la frontière entre la France et l'Italie, juste au-dessus de Menton et Vintimille. Il s'appelle Cédric Héroux. Il est devenu, sans l'avoir cherché ni le revendiquer particulièrement, un symbole, un héros. Le New York Times lui a consacré une pleine page. Il y déclare, tout simplement, « I'm a French man ». Il incarne une certaine idée de la France, de la fraternité, des droits de l'homme, mais surtout de la résistance. Nous sommes justement, rappelle le grand quotidien américain, dans des vallées où se sont cachés pendant la Seconde Guerre mondiale des Juifs fuyant les nazis et plus tard des collaborateurs du régime de Vichy. Au début, à partir de la mise en place de l'état d'urgence en novembre 2015, lorsque les contrôles aux frontières ont repris dans la vallée de la Roya, Cédric Héroux a vu des gens mourir sur les routes, des enfants en danger, des familles en détresse. Alors il a voulu les aider. Puis son idée de la fraternité et de l'entraide est devenue une forme de désobéissance active quand il a compris à ses dépens que ce qu'il faisait pouvait être jugé illégal. Depuis, Cédric Héroux a été placé 6 fois en garde à vue. Il a subi 2 perquisitions avec saisie de matériel et il a été condamné le 8 août dernier par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 1 000 euros d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Sa maison de la vallée de la Roya est désormais surveillée comme un repère de talibans dans la vallée de la Kounar. Armée, gendarmes, gardes républicaines mobiles, police aux frontières, douanes, ils se succèdent ou ils se retrouvent, mais pas une seconde ne se passe sans que les agissements et déplacements ne soient épiés et consignés par tous ces corps de l'État et que des contrôles en tout genre soient effectués sur les habitants alentour. Depuis le printemps 2016, Cédric Héroux a aidé environ 200 personnes à passer la frontière. Il en a accueilli chez lui des centaines pour une halte, un repas, un peu de repos ou des soins, quelques jours ou quelques semaines. À chaque procès ou arrestation, on se demande toujours qui est réellement en accusation, ceux qui aident les migrants comme lui ou l'État qui maltraite les premiers et condamne les seconds. On écoute donc cet homme hors du commun, Cédric Héroux, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture pour cette journée spéciale sur le retour des radicalités, point d'interrogation. Et c'est un reportage de Martine Abbat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Devant chez moi, il y a une espèce de parquet en bois, des chaises en bois. J'ai acheté en 2002 et j'ai retapé cette baraque entre 2002 et 2006.
Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter cette maison ?
J'ai fait plein de trucs. J'étais mécanicien auto, mécanique en poids lourd, en travaux publics. J'ai fait des travaux sur corde, donc tout ce qui est accès difficile. Je travaillais sur des voiliers, voilà. Donc je vivais seul, je cultive des oliviers près de 800 arbres en Italie, en France, et j'élève des poules pondeuses en agriculture biologique avec la mention Nature et Progrès. J'ai acheté cette petite baraque pour pouvoir avoir un pied à terre et pouvoir voyager et pouvoir revenir avoir mon chez moi. Mais depuis, j'ai pas voyagé quoi. Et je pensais voyager au départ en Afrique, puis c'est l'Afrique qui est venue à moi. Donc depuis 2 ans, on a donc des arrivées de personnes venues d'Afrique et qui sont passées par la vallée de la Roya et qui nous a forcé à nous impliquer, nous habitants de la Roya, pour leur venir en aide, parce que c'est des gens qui en avaient besoin. Et là, ça a bouleversé un peu la vie de notre vallée, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vallée de la Roya est franco-italienne, un peu à l'image de l'Europe. Le haut de la vallée est française et qu'on redescend, qu'on suit le fleuve de la Roya, on arrive à Vintimille, qui est la ville la plus proche et qui est en Italie. Donc quand on veut faire nos courses, on va à Vintimille. Et donc du coup, on est emmené à passer souvent en Italie. Les gens pensent que je suis allé chercher des migrants dans un pays étranger et les ramener dans mon pays. Mais mon pays, il est à Vintimille aussi, quoi. Pour nous, il n'y a pas de passage aux frontières de Vintimille à Bray. Pour nous, c'est le même territoire, c'est la même vallée.
Thank you.
J'ai fait du passage de frontières où j'ai transité des personnes en situation irrégulière sans même le savoir, comme je pense beaucoup de gens. En fait, au départ, quand je prends des gens en stop, je ne demandais pas forcément les papiers au noir. Donc, la notion de situation irrégulière, c'était pas trop dans mon vocabulaire ou dans mon esprit. Donc j'ai sûrement passé des personnes ou aidé à transiter des personnes en situation irrégulière sans le savoir. Donc j'ai aidé des gens à aller jusqu'à la gare de Breil-sur-Roya pour prendre le train. Et puis après, enfin, j'ai pris connaissance que à la gare d'après, qui s'appelle Sospel, il y avait des contrôles de militaires, hein, de la force sentinelle et de gendarmerie, et qui reprenaient ces gens et qui les remettaient en Italie. Donc je suis allé voir ces gens, ces familles, à l'église Saint-Antonio, à Vintimille.
C'est à l'église de Vintimille qui se rassemblait.
Ouais, c'est le prêtre de l'église qui a ouvert ses portes pour accueillir les familles et les mineurs, parce qu'il n'y a aucune prise en charge des mineurs ou des familles, des femmes, à Vintimille, faite par l'État italien. Donc c'est les personnes les plus vulnérables qui étaient accueillies à l'église Saint-Antonio. Donc il y avait pas mal de jeunes adolescentes et de familles et de gamins dans cette église. Quand on est à la frontière, on voit les gens passer et prendre des risques pour passer.
Il y a des dangers immédiats pour elle?
Le danger, c'est de passer la frontière. Imaginez une gamine venue d'Érythrée de 15-16 ans, qu'est-ce qu'elle a à proposer à un passeur quand elle n'a pas d'argent? Enfin, clairement, quoi, je veux dire.
C'est combien?
C'est 150 € pour aller à Nice. Il doit y avoir des réseaux pédophiles. Enfin, c'est de la viande gratuite. N'importe qui se sert à 26 000, c'est des gens qui ne sont pas répertoriés. S'ils ne sont plus à 26 000, qui c'est qui va se poser la question d'où ils sont? Personne. C'est des rapports qui le disent, il y a 5 000 personnes, gamins, qui ont disparu en Italie. Il n'y a aucune prise en charge des mineurs faite par l'État italien. Donc les gens passent en situation irrégulière, n'importe comment. Il y a des blessés, il y a eu 18 morts à la frontière. Voilà, et beaucoup de mineurs, en fait, qui se cachent au-dessus des trains, qui sont électrocutés une fois arrivés en gare. Et en se faisant écraser par des trains, par des camions, en passant un chemin qui s'appelle le Pas de la Mort, qui est assez dangereux. C'est les Alpes, hein, ici, donc c'est la montagne, c'est des ravins, c'est des falaises, et il y a de la casse, quoi. Donc, en 2016, j'ai vraiment commencé, je me suis engagé au printemps 2016. Je me suis engagé, j'ai directement fait, en fait, du passage aux frontières de Vintimille jusqu'à Breil-sur-Roya avec des familles, etc. Mais pour moi, c'était important pour l'intégrité physique et morale de ces personnes de les aider.
Quand vous avez commencé à faire des allers-retours avec Vintimille, c'était pour les emmener où ?
Ben, les emmener chez moi.
C'est tout petit chez vous?
Ouais, ben, au départ on avait juste une caravane et puis j'avais mon salon et voilà. Et donc on est déjà accueilli ici entre 7 et 14 personnes maximum. Et donc donner à manger, on contactait la famille potentielle et puis on les aidait à aller où ils avaient envie. C'était souvent hors de France, c'était en Allemagne ou. Donc les demandeurs d'asile veulent partir des Alpes-Maritimes parce que c'est dangereux, parce qu'on est reconduit en Italie. Un demandeur d'asile, quand on lui dit reste à Nice, il fait non, Nice, mouchkila. Donc c'est dangereux. Les policiers nous disent vous allez où vous voulez, mais vous restez pas à Nice. C'est clair et net. Vous dégagez à Nice. Quand il y avait des mineurs isolés dans le train ou ailleurs, ils étaient reconduits directement en Italie, ce qui est illégal. Et la prise en charge des mineurs isolés, c'est une obligation pour le département. C'est, Donc notre rôle, c'était de sortir du département des Alpes-Maritimes. Donc on en prenait notre minibus qui a été saisi par la justice. Et donc on les sortait du département, on allait dans le département du Var pour qu'ils continuent leur chemin par train.
Donc vous aviez même un minibus à l'association?
Voilà, j'ai acheté un minibus. Parce qu'en fait, ma première arrestation, le procureur m'a dit que c'était les conditions indécentes de transport, parce que c'est vrai que c'était 8 personnes dans un titre utilitaire.
Vous les mettiez à l'arrière?
Ouais, à l'arrière.
Là où vous transportez vos œufs habituellement.
Voilà, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, on a acheté un fourgon qui puisse transporter des personnes dans de bonnes conditions. Et donc, on les emmenait pour des femmes, on avait des réseaux de féministes, pour des gamins, on emmenait dans des foyers où ils avaient la réputation de bien prendre en charge, puis voilà. Puis j'ai commencé à être connu à Vintimille. Chaque fois que je passais par Vintimille, il y avait une quarantaine de gosses qui me sautaient dessus pour que je les embarque chez moi, quoi. Plus discrètement, des mamans et des papas qui me demandaient de les aider. et on se retrouve, comment dire, responsable d'eux en fait. Parce qu'on a envie de tous les aider, et puis c'est assez stressant quand même de faire des choses qui sont illégales, parce qu'on sait pas trop où on en est, quoi. D'un côté, il y a l'émotion qui nous dit de le faire, et de l'autre côté, il y a le risque de la prison, de la police, de tout ça. Parce que quand même on est sur le sol français, qu'il est interdit d'aider des personnes en situation irrégulière, et qui ne peuvent pas justement se régulariser.
Donc vous étiez quand même angoissé?
Ouais, mais bien sûr, ouais. Non, c'est sûr. C'est que dans la veille de la Roya, c'est tout ce qui est aux migrants, c'est un peu une lutte de vieux, quoi. Pour ça, j'étais entouré de vieux. Donc on partait à plusieurs bagnoles, donc c'est avec des papis et des mamies. Donc t'as le papy qui a des problèmes à la prostate, qui doit s'arrêter toutes les 20 minutes pour aller pisser. T'as l'autre mamie qui se perd en bagnole, qui sait plus où aller, avec des réfugiés dans la bagnole, ouais. Non, c'était assez comique, c'était assez rigolo quand même. C'est des gros convois, donc une voiture qui ouvrait à 7-8 voitures. Donc au maximum, c'est 25 personnes qu'on faisait passer, soit par des pistes de montagne, soit par la route. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ça, quoi. Il y a des liens, et je pense que ça a apporté beaucoup dans la vallée. Puis ça, d'aider des gens, ça fait du bien, en fait.
Parce que dans ces jeux du chat et de la souris, il y a aussi un certain plaisir.
Honnêtement, un peu, ouais. Il doit y avoir une espèce d'addiction à l'adrénaline. Le pire, c'est qu'on s'attache en fait aux familles. On a une famille qui est restée là pendant plus de 4 mois. On trouvait pas de logement pour eux en fait. Et après, on en trouvait pas trop parce qu'on était content qu'ils restent avec nous. Et puis c'était devenu des amis. Le jour où on les a bougés, eux, c'était super stressant parce qu'on avait peur de se faire choper, quoi, et de perdre la famille. Donc moi, j'ouvrais la route.
Donc avec personne à bord, c'est
moi,
ça?
Voilà, moi, personne à bord. J'ouvrais la route et en fait, on s'est retrouvés coincés un peu sur l'autoroute parce que toutes les sorties étaient occupées par les flics. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de jouer l'ivrogne devant le contrôle de police. Ah, c'est la sortie de Monaco. Et je suis sorti de mon véhicule avec une bouteille de bière. Je marchais, je traitais de sale pute, de gueuler comme ça, comme un bourré qui venait se faire plaquer. Les flics m'ont regardé bizarrement. La copine est passée avec le bus 9 places juste à côté des flics. Les flics m'ont regardé. Parce qu'il faut être sûr que quand on se balade avec 9 noirs dans la voiture, ben on peut se faire arrêter. Hein. On dit qu'il n'y a pas de contrôle au faciès, c'est complètement faux. Ça a marché, mais on avait vraiment peur pour eux. Et après, ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais. Il y avait des trucs rigolos, quoi. Sur des voies rapides à double sens, séparées par une espèce de terre-plein. Où on se retrouve en embouteillage, d'un côté, dans un sens, il y a nous avec 10 gamins dans le minibus noir, puis de l'autre côté, un bus de CRS qui nous regarde comme ça, et qui se regarde entre eux, et puis nous on est là, il faut que ça roule, il faut que ça roule, il faut que ça roule. Et ça m'est arrivé par contre de me faire arrêter par la police en faisant des passages, et que la police me laisse partir, sciemment. Moi, j'ai même vu dans le train entre Vintimille et Nice, et de voir une famille. Puis moi, je m'assois à côté d'elle pour voir un peu comment ça se passe pendant l'interpellation. Et donc, de voir cette famille avec le papa qui est complètement stressé, qui a un journal d'italien, mais à l'envers. Et je vois le flic qui le regarde et qui regarde les gamins, la maman, et puis qui sait, en fait, qui sait, et puis qui part et qui les laisse. Derrière chaque uniforme, il y a un homme et il y a beaucoup de policiers qui compatissent à cette détresse, quoi. Ça s'est poursuivi pendant l'été, et puis il y a un moment où on s'est trouvé un peu débordé sur le fait où les gens et les gamins montaient seuls chez moi, en fait. Ça m'est arrivé où je suis descendu à 26 000, là c'était, il y avait l'église qui était pleine, et il y avait plein de gamines qui voulaient absolument que monter. J'aurais dit non, c'est pas possible, il y a trop de monde, c'est pas possible. Et donc elles sont restées en bas, je suis monté seul, et la nuit elles ont débarqué à 35 à la maison, quoi. Et du coup là on a été débordés, quoi.
Elles venaient d'où la plupart?
Érythrée.
Érythrée.
Ouais, entre 13 ans et 17 ans. Ah, c'est compliqué d'avoir 30 adolescentes à la maison. C'est un peu le bazar. Mais j'étais éduqué là-dedans. Ma mère est assistante maternelle, donc j'étais éduqué à vivre avec des gamins, des machins. Et,
qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère ?
Elle était assistante maternelle. Son rôle, c'était de garder à la maison, chez nous, d'autres enfants. Et c'était à long terme, c'était jour et nuit. Ça peut durer quelques mois ou des années.
Donc elle était famille d'accueil, en fait ?
Ouais, famille d'accueil, ouais, c'est ça.
Elle vous a transmis ça ?
Je pense pas que ce soit elle en particulier. C'est ma mère qui fait ça, mais c'est la France aussi qui protège ses enfants. L'école obligatoire, tout ça, c'est les valeurs françaises. Tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est liberté, égalité, fraternité, on le dit vite, mais c'est des mots qui ont du sens. Moi, j'ai arrêté les passages, j'avais vraiment plus envie du tout de participer, parce que cacher des gens sous prétexte qu'ils sont noirs, c'est cautionner une espèce de racisme d'État, un contrôle aux faciès, c'est participer à tout ça. Puis j'ai appris que c'était pas forcément légal toutes ces reconductions en Italie. Le problème majeur, c'est que nous on parle de demandeurs d'asile et le préfet parle de personnes en situation irrégulière. Donc lui, les textes de loi qui disent sur les personnes en situation irrégulière, il peut les renvoyer quand il veut en Italie, machin, etc. Et si on regarde un demandeur d'asile, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est compliqué, quoi. Donc j'ai aidé, 200 personnes par là. Et je me suis arrêté quand j'ai pris conscience que l'État était dans l'illégalité et qu'il y avait des possibilités d'aider les gens de façon légale. Et c'est là où j'ai décidé, pour être crédible, de ne plus faire du tout de passage aux frontières. Parce que les gens venaient d'eux-mêmes, je commençais à être connu à 26 000, d'eux-mêmes jusqu'à chez moi. Donc ça prouve que la frontière, c'est une passoire, elle sert à rien. Et nous, ce qu'on demande, c'est ça en fait, c'est qu'on sache qui rentre sur le territoire aussi, quoi, parce que là c'est contre-productif. Tout repose sur les épaules d'un paysan et éleveur de poules, et c'est à l'État de le faire, quoi. Cédric le passeur est devenu Cédric qui aide au contrôle à la frontière.
Ça, c'est la cuisine, hein?
Ouais. Donc, il y a Abdallah qui fait à manger pour tout le monde. Avant ça, il y avait Joseph, des fois, on se relaie.
Abdallah, il fait la cuisine, ouais. Ça fait combien de temps qu'il est là?
3 mois qu'il est là, ouais.
Donc certains sont là depuis longtemps.
Ouais, depuis un moment, ouais. Ils habitent ici, ils veulent rester ici. Et c'est les gens qui sont contents d'accueillir les futurs demandeurs d'asile, ouais. On a des responsables de tout ce qui est machine à laver, lavage de couverture, etc.
Et là, il y a les sanitaires.
Là, t'as des douches, t'as des chiottes sèches un peu autour. T'as des caravanes sur ta droite. Cette vieille caravane qu'on a achetée 500 euros. Et en face, t'as une des tentes. Et cet automne, on construira des petites cabanes en bois pour pouvoir loger dans meilleures conditions. Et des cabanes de 4 places et 6 places. Donc, y a beaucoup de gens qui sont arrivés à mon domicile. Il y avait une 60aine de personnes en quelques jours. Donc, j'ai alerté pas mal d'associations et on a décidé ensemble d'occuper donc ce bâtiment désaffecté de la SNCF qui est désaffecté depuis 91, donc 26 ans, dans le nord de la Vallée de la Roya. Donc, c'est un lieu qui était avec des vitres cassées, des volets arrachés, tous les câbles électriques pillés dans le bâtiment. Il y avait 4-5 bâtiments sur le site, avec une espèce de grosse allée de platanes, un petit terrain de foot. C'était un bâtiment qui servait en fait de colonie de vacances. Et donc il y avait une cuisine énorme, des grosses chambres froides, des grosses hottes aspirantes, et de quoi faire à manger pour 700 personnes. Et donc c'est un truc qui était là à l'abandon, et on trouvait ça génial. Donc, de faire un lieu justement où on peut faire de l'accueil à notre échelle, et puis on avait même l'idée, on se dirait, imagine, on peut se faire, je sais pas, du concert, on peut faire vivre ce lieu-là, quoi. Donc on rentre dans ce bâtiment le lundi vers 15h, on nettoie le bâtiment, on y installe une espèce d'infirmerie, un endroit pour y faire à manger, et le jeudi matin, la police arrive et nous déloge en fait. sous pression donc du préfet, la SNCF a porté plainte, a demandé l'évacuation et a demandé de dommages et intérêts. Parce que d'après la SNCF, d'avoir 80 personnes dans les lieux pendant plus de 3 jours, forcément, ça a créé une vétusté au bâtiment. Donc j'ai été condamné à verser à la SNCF 1000 euros pour le désagrément subi. Et 4 mois avec sursis. Ouais. Ouais. Il y a quand même pas mal de gens en fait, qui sont passés par ici, qu'on a réussi à aider, des milliers de personnes. Donc si on doit payer pour 4 mois de toll, c'est pas non plus dramatique, quoi. 4 mois de restriction de liberté, pourquoi pas, quoi. Je pense que ça peut être compliqué pour eux de me mettre en prison. Parce qu'on est dans le pays qui représente les droits de l'homme et là, ça risque de la foutre mal au niveau des relations internationales, quoi. Parce que ça, d'incriminer des défenseurs de droits de l'homme en France, c'est plutôt très rare, en fait. Ça risque d'être compliqué pour la France. Ils veulent juste que j'arrête, quoi, et faire peur aux gens.
Il y a beaucoup de personnes comme vous dans la vallée qui hébergent.
Mais il y en a un peu moins, les gens ont peur quand même. Enfin, autour de chez moi, il y a quand même 3 postes de police qui regardent aux jumelles ce qui se passe chez moi. Les bénévoles se font très régulièrement contrôler. Puis les perquisitions, tout ça, quoi. Si on n'a pas l'impression d'être en France, quoi. Il y a quand même 400 flics pour 5000 habitants. Ça fait 1 pour 10, ça fait beaucoup, quoi. Il y a des menaces de mort de partis d'extrême droite. Enfin, je veux dire, ça fait peur. Hein. Clairement, on veut notre peau, hein. C'est pas rien, quoi, quand même. Il y a le ministre intérieur qui s'est positionné contre nous, quoi. On est dans un espèce de petit îlot avec les moyens qu'on a. Enfin, la petite maison, enfin, on est des petites personnes, quoi. La dernière fois, je me suis fait arrêter avec 2 mineurs isolés dans ma voiture, Ibrahim et Sissé. Ils ont 15 ans et 16 ans. Qui étaient en cours de procédure de faire une demande de prise en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance qui est gérée par le département. Donc, je les ai emmenés au foot depuis un mois et demi. Ils allaient jouer au foot tous les mercredis. Et étant donné qu'il y a la police qui nous surveille les allées et venues, ils ont vu Cédric Héroux avec 2 noirs, ils se sont dit ah, « bingo ». Et je me suis fait arrêter, ils m'ont mis en garde à vue pendant 24 heures.
Et vous dormez en cellule ?
Et on dort en cellule, ouais. Et comme d'habitude, sans suite, enfin sans excuse, on voulait sortir et puis c'est tout, rien. Donc clairement, si on voit un gamin au bord de la route, il ne faut pas s'arrêter, surtout s'il est noir. En fait, c'est le message donné, c'est ça, quoi. Enfin, dans la Roya, personne ne s'arrête prendre un noir en stop, sous peur d'aller en garde à vue, quoi.
Avec vos œufs, vous nourrissez tout le monde, en fait, sinon.
Ouais, mais ça me coûte du fric aussi. Donc bah c'est mon métier à la base, donc je vends ça sur les marchés de Breil et les jeudis à Nice dans la MAP et des petits magasins. Et puis après ouais, on en mange ici aussi. Ouais. Ouais. Entre 300 et 400 par semaine. Et je fais ça depuis 5-6 ans pour compléter en fait l'activité oléicole, donc tout ce qui est culture olivier, tout ça. Je néglige mon travail. J'ai perdu 15 000 euros de chiffre d'affaires entre 2005, 2006 et 2017. Parce que les oliviers apportent beaucoup de travail. Donc, et puis j'ai plus le temps de le faire. Mais c'est la vie quoi, qui emmène à des changements, quoi, heureusement. Quoi. J'ai 7 personnes qui habitent chez moi depuis, voilà, qui sont restées. Et puis c'est sympa. Il y a des bénévoles qui viennent là, qui ça se passe bien. C'est un peu fatigant, c'est que quand je prévois une journée pour aller faire la fête ou aller grimper ou faire un truc, tout est mis en question en fait. C'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans la journée. Déjà, on ne gère absolument pas le nombre de personnes qui arrivent à la maison. La fois où on était quand même 250 à la maison, clairement, on a une cuisine qui est faite pour 40 personnes et 80 maxi. Et là, ça n'arrêtait pas, les casseroles, elles n'arrêtaient pas. C'était repas sur repas sur repas sur repas. Il faut gérer les masses, quoi, parce que c'est des personnes qui sont fatiguées, qui sont stressées, la police qui rôde autour, enfin c'est un peu l'ambiance. Mais ce qui marche bien là, c'est qu'étant donné qu'il y a des demandeurs d'asile, des exilés qui habitent chez moi, c'est eux qui gèrent le camp en fait, et ça met en confiance les gars en fait. Moi ici, je suis un peu comme le directeur de la colonie, quoi. Mais après, être proche d'eux tout le temps, après c'est compliqué, il faut se protéger aussi. Et il y a plein de bénévoles qui sont partis traumatisés d'ici. Ces gens qui souffrent, où on trouve pas de solution, où on se démène, et puis il y a vachement d'échecs aussi. Quand il y a des gens qui sont à la maison depuis longtemps, et qu'on les emmène pour faire de demandes d'asile, et qui sont pris comme des paquets, mis dans des bus et dégagés en Italie du Sud, ça trouble les gens qui viennent ici.
Vous avez l'impression parfois d'être un héros?
Héros, non. Non, je suis pas allé à... Non, un héros, je sais même pas ce que c'est un héros, en fait. Peu de folie, je pense. Peu de folie. Héros, non, je pense pas, non. Moi, j'étais chauffeur de taxi et j'ai une auberge de jeunesse chez moi, c'est tout, quoi. Non, non, c'est... Je suis pas un héros, non.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Cédric Héroux, un reportage de Martine Abbat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Léa, Rémi, à Abdoul et bien sûr à Cédric Héroux. Le retour des radicalités, point d'interrogation, c'est le thème de cette journée spéciale sur France Culture et ça n'est pas fini bien sûr. Ne manquez pas notamment à 18h20 dans le Grain à Moudre, le club des idées qui se posera la question suivante. Relations internationales, faut-il remondialiser pour déradicaliser? Et c'est en partenariat avec le journal La Croix. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos tweets, vos retweets, vos clics, vos followers et vos likes.